Et je l'ai lu, moi, après avoir rédigé ce que j'ai rédigé. Et en lisant ça, je me suis dit, mais c'est pas étonnant que le mouvement se soit dépolitisé, quoi. Parce que c'est à la fois un travail, il a fait un travail d'archives, il a fait un travail d'interview, mais je retrouvais pas mal de choses, hein. Moi, j'avais fait de mon côté. C'était correct, quoi. C'était un travail, c'est un travail correct, quoi. Mais le point de vue politique, mais alors, il n'y a rien. Tout est ramené à l'itinéraire psychologique de certains personnages, à la nature humaine, etc., etc.
L'enthousiasme,
À l'enthousiasme,
l'enthousiasme, la technologie.
voilà, ouais, la scientophilie, la technophilie, etc., etc. Donc, quand j'ai lu ça, je l'ai lu, hein, bon, enfin, pour vous dire, j'ai 1,50 m de rayonnage de deux bouquins sur le nucléaire à la maison. Bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'ai compris, quoi, j'ai compris. Mais bon.
C'est toujours l'éternel problème, c'est la perspective critique, quoi.
Oui, mais surtout la question du politique et dans la question du politique, de le ramener au capitalisme. Parce que ça, c'est ce que, en fait, ce que j'expose, j'y suis pas encore. Mais parmi la quinzaine de conclusions dont je voudrais parler, c'est ce que ça signifie dans l'analyse du capitalisme et dans ce que j'appelle la civilisation capitaliste. Mais bon, ce sont d'autres sujets. Revenons au 8 août, donc, ce que je disais, dont je parlais à Césine. Et je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que tu sais que exactement entre les deux bombardements à Londres, c'est là que se sont discutées les statuts du tribunal de Nuremberg, qu'elle est statuée en fait sur le crime contre l'humanité. Elle m'a dit, ah non, je ne savais pas. Ouais. Bah, pour moi, si vous voulez, c'est pas une coïncidence, quoi, c'est pas un hasard. Parce qu'il faut savoir. C'est une construction juridique assez particulière, le crime contre l'humanité à cette époque-là. Ça, ce site particulier qu'on retrouve encore beaucoup du point de vue des États-Unis, c'est que de ce crime contre l'humanité, les alliés ne pouvaient pas être accusés. Je répète, dans la construction juridique un petit peu bizarre, parce qu'en principe, une construction juridique, c'est la vocation universelle. Dans cette construction juridique, il était stipulé en toutes lettres que les alliés ne pouvaient pas en être accusés. Donc, si vous voulez, moi, quand je lis ça, quand je vois ça, que cette réunion se met en place, ce statut, et puis ce statut juridique du crime contre l'humanité, que ça se déroule entre le 6 et le 9 août, je me dis que vu la réflexion, la préparation, mais en profondeur, et de long terme, et avec des spécialistes qui s'est produite tout au long du projet Manhattan, moi personnellement, je suis convaincu que ce n'est pas à mettre sur le compte du hasard, mais plutôt sur le compte de la nécessité politique. Bon, avant de passer à la troisième partie, est-ce qu'il y a des questions là, sur cette deuxième partie? J'aurais pas fini ce soir. Donc cette deuxième partie, c'était sur comment et pourquoi fut prise la décision. Bon, je peux quand même dire un mot de conclusion, en fait. Ils ont retardé. Oui, il y a une chose que je n'ai pas dite. Juste, excuse-moi, j'ai pas dit. C'est que en fait, les Japonais ont accepté leur défaite le 15 août. Et l'acte de reddition a été signé le 2 septembre sur l'USS Missouri, le porte-avions le Missouri. Et que pendant ce temps-là, les troupes de Staline avançaient. Et elles ont avancé d'ailleurs jusqu'au 3 septembre. Ce que je veux dire par là, la conclusion de ce chapitre-là, si on veut, c'est qu'en fait, ils ont retardé, ils ont repoussé les. Ils ont, en fait, ils ont, on pourrait même dire une chose de plus fort. Ils ont prolongé. Alors là. Je l'ai écrit, je le réécrirai. Ils ont prolongé la guerre du Pacifique pour pouvoir faire l'essai des bombes atomiques in vivo sur les civils japonais. Ils ont prolongé, je le signe et j'attends que quelqu'un me démontre le contraire. Les États-Unis ont prolongé la guerre du Pacifique pour pouvoir faire les essais de bombes atomiques sur les civils japonais et sur les villes japonaises. Ça, c'est la conclusion majeure de ce chapitre-là.
Suis pas sûr d'avoir bien compris la raison pour laquelle, finalement, le groupe de cible,
Le comité de la cible.
Le comité de la cible choisit Hiroshima, et a choisi Hiroshima et Nagasaki à la place de Kyoto, qui avait l'air pressenti au début.
Parce que, en fait, c'est Groves qui avait été à Kyoto qui a pensé que ça ferait un trop gros scandale au niveau international et qui a interdit que Kyoto soit bombardé. Parce qu'il avait été à Kyoto, ça c'est le premier truc, parce qu'il avait vu en fait, enfin, ce qui restait encore de la part d'humain qui restait en lui. Et surtout, parce que Groves très tôt a pensé à ça, c'est-à-dire au fait que la puissance atomique des États-Unis ne devait pas être entachée de quoi que ce soit, d'aucun reproche.
Donc, Hiroshima seulement. Sur la question de l'emploi, est-ce qu'on peut imaginer une demande de rédition? Je suis d'accord avec la thèse qu'ils ont retardé pour effectivement étudier la bombe, parce qu'il y a du racisme derrière, je suis d'accord. Hein.
Pas seulement. C'est pour utiliser la bombe, voilà, parce qu'elle n'était pas prête, l'utiliser contre les civils, pour montrer au monde ce que ça pouvait faire.
Si tu dis qu'il n'y a pas racisme et que tu dis que c'est lié,
ah, il y avait racisme aussi.
C'est lié au système capitaliste, etc. Alors là, c'est un truc universel. Il n'y a plus de racisme. Mais bon, fermons la parenthèse. Pour revenir à l'emploi,
excuse-moi,
est-ce
pas,
qu'on peut
pas
imaginer une reddition de l'Allemagne avec Adolf Hitler? Hirohito, c'était quand même un criminel de guerre, il faut le rappeler. Moi, j'ai un copain éditeur qui a publié un livre en 8 tomes qui indique que Hirohito était un criminel de guerre en 89, quand il est mort, enfin un petit peu après. Et il a été victime de l'extrême droite. Il n'a pas pu faire de pub, il a été victime d'ostracisme, il a été porté plainte. Il a quand même gagné son procès, mais c'est pour dire que quand même, c'est quand même pas n'importe quoi, Hirohito, c'est quand même un salaud. Mais bon, voilà, juste, je suis peut-être un peu hors sujet, mais...
Non, il y a...
Et il y a un côté irrationnel, c'est vrai ce que tu dis,
quel
faut
côté
être rationnel, etc. Mais...
Non, attends, ça c'est important, ça.
Quand tu regardes la cause de la bombe de l'atome en France, c'est quand même, il y a un côté irrationnel, il y a un sentiment d'un effondrement qui ne doit pas se reproduire, qui a eu lieu avec la défaite de la bataille de France en 1940. Quand tu regardes les États-Unis, ils ont subi un tel affront à Pearl Harbor que effectivement ils ont voulu se venger, il faut reconnaître. Voilà.
Et on savait quand les États-Unis ont envahi l'Irak en 1990 que les Irakiens n'avaient pas la bombe atomique, parce que les États-Unis n'auraient jamais rassemblé 150 000 hommes en un même point. C'était clair.
Comment dire, de mon point de vue, enfin bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Hirohito, c'est un criminel de guerre. Ils se sont livrés à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité, même les Japonais en Chine. Ça, il n'y a aucun souci. Moi, je ne me situe pas de ce point de vue-là. Je veux dire, bon, c'est vrai, il n'y a aucune discussion là-dessus. Hein. Pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer une problématisation d'ensemble. Et petit à petit, je la développe. Pas à pas. Donc, si tu veux, ce dont tu parles après pour la France, etc., je suppose qu'on en... Et bien évidemment, tout est discutable ici, et heureusement, mais c'est autre chose. Ce que j'avance là, comment dire, c'est ça va avoir des conséquences après, à la fois dans la théorie critique, tel qu'on peut l'avancer dans la critique, si tu veux, dans la critique politique, dans la philosophie, etc. C'est pour ça que je l'avance.
Bon, pour ceux qui l'auraient vu, il y a un film qui décrit, à mon avis, assez bien l'ambiance au Japon à la fin de la guerre et le bombardement des civils, hors bombe atomique, c'est Le Congo des Lucioles.
Très joli,
et très émouvant.
Un
dessin animé extraordinaire.
C'est combien de temps il dure? Parce que les titres se mêlent. C'est un court métrage.
Non, non,
un long métrage.
Un dessin animé très très fort qui raconte l'histoire de deux gamins, en gros. Leurs parents disparaissent, le Japon est bombardé, ils vivent l'enfer, quoi, simplement.
Oui, Thierry.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as dit, sur le caractère sacré de l'empereur du Japon. Et d'insister sur le fait que les termes de la reddition étaient absolument imbuvables pour la mentalité japonaise à cause de ça. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il y a tout un problème en ce moment au Japon sur l'empereur qui voudrait arrêter son rôle d'empereur en disant « j'ai un successeur ». Et les Japonais disent « non, c'est impossible, parce qu'un personnage sacré ne peut pas dire « j'arrête ». C'est le problème, il est en ce moment. Donc ça continue. Et il y a un total décalage entre notre mentalité à nous, européenne, avec cette mentalité au Japon vis-à-vis de l'empereur, qui continue. Donc si c'est vrai aujourd'hui, c'était encore plus vrai en 1945. Alors ce que je voudrais savoir, c'est pour quelle raison, pour les États-Unis, c'était essentiel de faire les deux expériences à cause des deux bombes de types différents, alors que techniquement la guerre était déjà gagnée. Est-ce que l'idée, c'est pas pour faire une expérience de puissance par rapport à déjà prévoir l'après-guerre, c'est-à-dire la concurrence Est-Ouest? C'est-à-dire que le but de la bombe, c'est pas pour enfoncer les Japonais, le but de la bombe, c'est de déjà avoir un instrument dans la future diplomatie anti-russe, anti-URSS.
Oui. Certains disent, oui, bien sûr, certains disent, bon, à juste titre, que c'est le premier acte de la guerre froide. C'est vrai. Mais moi, ce que je dis, ça dépasse largement ça, dans toutes ses conséquences. C'est-à-dire, c'est pas seulement le premier acte de la guerre froide contre les soviétiques, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire, il faut avoir lu, comme l'avait fait Belbeok, Roger Belbeok, qui est décédé il y a quelques années, et puis Béla Belbeok, qui est décédé il n'y a pas longtemps, deux physiciens, qui avaient relu tous les journaux de l'époque quand la bombe a éclaté. Mais c'est dithyrambique, jusque dans l'humanité, hein. C'est la grande révolution scientifique, l'être humain n'a jamais fait de choses aussi grandioses. Il n'y a qu'un seul journal qui détonne, c'est...
C'est le combat avec l'article de Camus.
Voilà, c'est ça.
Le combat, oui.
Ouais, c'est combat avec l'article de Albert Camus. Ouais. Un des seuls philosophes à s'être opposé et qui réitérera cette opposition au nucléaire quand il fera son discours de prix de la littérature. Il en reparlera.
Ouais. Tu l'as eu où ça? Moi, j'ai écouté le discours de la présentation de Roger Belbeok en 80, je ne sais plus combien, 13, 12, sur ce sujet, et j'en avais fait un résumé, mais je n'ai jamais vu d'écrit.
Sûr.
Je pense pas qu'il ait imprimé ou fait quoi que ce soit.
De quoi?
De qui? Le texte de Belbeok.
Oui.
Enfin,
Si. Ah non, oui. Non, moi, je l'ai. J'ai tellement lu de documents, écouté des choses, etc. En fait, il avait fait, en tout cas, une émission à Radio Libertaire où il parlait de tout ça.
D'accord.
Soit le compte-rendu, soit l'émission de Radio Libertaire, je pense qu'on doit pouvoir l'avoir sur Dissident Média.
Ah, d'accord.
Mais tout ça, c'est référencé pour ceux qui le veulent. Tout ce que j'avance, phrase après phrase, est complètement référencé. Je veux dire, bon, j'ai à la fois mon passé d'ingénieur et puis j'ai eu une formation d'historien, enfin, d'apprenti historien, mais à Paris 8 et avec... bref. Le troisième... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il est 10 heures. Vous voulez qu'on arrête?
Je pense que c'est un peu dur de
continuer. Oui, alors il y a des personnes qui travaillent demain matin. Hein, bon, je propose qu'on arrête. Je vous propose qu'on arrête là. Les deux autres points et la conclusion. Là, j'ai un paquet de choses à dire. Mercredi prochain. Ça vous va ? Est-ce que, attendez, on a quelques minutes juste pour la discussion comme ça, bâton rompu, ou comme vous le souhaitez, hein. Qu'est-ce que vous...
Moi, je voulais faire juste une petite annonce. Le 18 février, il y a une manifestation à Burin, contre l'endroit où ils veulent faire le site d'enfouissement de déchets, là, dans la Meuse.
Donc, voilà. De déchets nucléaires.
Juste voilà, de déchets nucléaires. Enfouissement de déchets nucléaires. Et je sais pas, ils appelaient aussi à des actions toute la semaine du 14 au 18 intitulées Déclare ta flamme à l'endroit. Référence à Saint-Valentin du 14 février.
Si je peux faire de la publicité, ouais, aussi. Donc le 11 mars, vous savez, pour l'anniversaire de Fukushima, donc il y a une coordination anti-nucléaire donc, qui réunit des groupes qui d'habitude ne s'entendent pas beaucoup, mais s'entendaient pas beaucoup. Donc il y a décidé de se coordonner et donc on essaye d'organiser une manifestation. Du coup j'ai oublié le parcours. Enfin je vous en informe. Et donc tenez-vous en alerte, vous recevrez des mails, des infos. Voilà. Si on pouvait être beaucoup plus nombreux que la cinquantaine ou les quelques.
Il faudra que tu nous dises à quelle heure. Si c'était en début, voilà, d'après-midi, ça serait bien.
Je crois que c'est l'après-midi.
Je viens d'avoir l'accord de Anselm Jab pour venir le 11 mars ici.
Il y aura aussi la diffusion du film de deuil, un débat le soir sur le projet Ethos. Vous savez, Ethos, c'est vivre avec. Voilà.
Et donc, ça sera où, ça, le débat le soir?
Ah zut, je n'ai pas emmené avec moi.
Tu me l'envoies, moi je le répercute.
Certainement à la mairie du deuxième arrondissement.
Est-ce que quelqu'un a une feuille blanche pour,
oui, j'en
les... non, pour faire circuler juste le prénom et le mail?
Pardon.
C'est Jacques Boutou.
Oui,
pour ceux qui sont pas informés par la lettre de la BAM, s'il vous plaît, votre prénom et votre mail. Donc voilà, on peut se donner 10 minutes, un quart d'heure, pas plus.
Les infos, si tu peux les diffuser.
Oui, voilà, je diffuse, ouais, avec plaisir.
Et sur la conclusion, la thèse, c'est quoi? Est-ce que c'est, pardon, là j'ai noté un truc tout à l'heure, sur la façon de travailler, etc. Cloisonnement, en plus secret, c'est vraiment la victoire d'un capitalisme. C'est-à-dire, les gens ne se posent pas de cavale, c'est le travail abstrait. Vraiment, hein, on ne se pose pas de travail sur ce qu'on fait, etc. Ça n'a plus rien à voir avec le travail. Est-ce que c'est ça? Et donc, avec le capitalisme, on atteint quoi? Un autre... voilà, si tu pouvais juste dire, ou alors tu vas le dire dans d'autres séances. D'accord, pardon. Ok.
Ce que dit Jean-Luc est très intéressant, hein, parce qu'en fait il fait référence, si vous voulez, à ce qui est central dans le séminaire de Jappe, c'est-à-dire la question du travail mort, la question du travail abstrait, de la marchandise comme véhicule de ce travail mort et ce travail abstrait, de la valeur, etc. Bon, on ne peut pas rêver, si on peut dire, de meilleurs exemples que ce qui se passe dans ces villes secrètes. Travail abstrait, travail mort, etc. C'est le nec plus ultra du travail abstrait sur une chose abstraite. Hein.
Absolument.
Sur une chose abstraite. Et c'est très intéressant. Hein. Il y a là des débats philosophiques et théoriques de première grandeur. Hein. De première grandeur.
Oui, mais alors quand est-ce que tu les abordes au niveau de ton séminaire?
Jéus, tu sais pourquoi. J'ai décidé. D'abord, par exemple, j'interviens presque plus jamais dans les assemblées, parce qu'on ne peut pas intervenir en 2 minutes, on caricature tout ce qu'on pense. Et j'ai décidé de... Je me suis aperçu, si tu veux, qu'il y a des choses que je pouvais avancer qui ne faisaient pas leur chemin dans leur tête, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec, si tu veux, mais qui n'étaient pas du tout comprises. Donc j'ai décidé de prendre mon temps, d'y aller doucement, pas à pas, et... en essayant d'être le plus clair possible, mais surtout, encore une fois, sur la question de qu'est-ce qu'on peut dire de ça du point de vue théorique, philosophique, politique, quoi. Et même, encore une fois, de qu'est-ce qui se joue là de l'histoire même du capitalisme, de l'histoire occidentale et même de l'histoire du monde. Bon, enfin bon, je ne veux pas. Il y a beaucoup de choses à dire.
C'est vrai. Une question à 10 euros. Est-ce qu'on a une idée de l'uranium qui existe sur la planète?
De quoi? De l'uranium qui existe sur la planète? Du minerai?
Parce que
moi, je n'en ai pas.
Si, c'est mon rêve. Si un jour, il y en a plus, on peut en construire.
Oui, mais ils recyclent, si tu veux, ils recyclent tout ce qui a été produit depuis les années 70, depuis que les centrales fonctionnent. Ils en tirent du plutonium. Donc ça ne résout pas le problème.
Oui, c'est partir des déchets. Ouais.
En fait, on peut produire à peu près autant de plutonium qu'on veut. C'est ça le problème.
Mais en tant que tel, si vous voulez, philosophiquement, par exemple, le nucléaire, philosophiquement, c'est un sujet mais incroyable, quoi. Je veux dire, Le seul philosophe qui ait vraiment travaillé sur la question, c'est Gunther Anders. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Essayez de chercher un philosophe qui ait consacré au moins un livre en entier sur la question nucléaire. Il n'y en a pas. Il n'y a que Gunther Anders. Gunther Anders, c'était les années 50 et 60. Bon, maintenant, on est quand même censé avoir un petit peu avancé. Bon.
Jean-Jacques Delfour.
Je l'avais en tête, je l'ai lu, bon, à l'échappée, bon, moi, enfin bon.
Et c'est pas Gunther Anders.
Non. Plus, si je devais dire certaines choses, bon, je ne les dirais pas.
T'es sur l'écoute surtout.
Voilà. Merci.
Et je pense que, en tout cas, ta question renvoyait à peut-être à un sentiment un peu latent, partagé, de la façon dont on peut participer et s'investir dans une réflexion qui, bien sûr, dont tu poses, et c'est comme ça, et c'est tout à fait justifié, qu'il faille d'abord connaître un certain nombre de choses. Quoi. C'est vrai que c'est un récit très, très difficile, parce que pas du tout enthousiasmant, une histoire qu'on ne connaît pas, et puis un peu anxiogène, parce que si on est claustro, quoi, on est servi, etc. Et donc, c'est difficile de savoir comment se rapporter et comment se joindre à cette réflexion sans avoir peut-être la même approche a priori. Je ne dis pas qu'il ne faille pas aussi se documenter, et, parce que cette histoire de l'article de Wikipédia, moi, je ne dis pas que je vais le faire, hein, mais ça me semble, voilà, ça fait partie des choses qui, à mon avis, oui, voilà, semblent anodines, mais sont très intéressantes à faire. Est-ce qu'on peut venir ici en ayant lu juste quelques textes de Gunther Anders, l'article d'Albert Camus ou de...
Enfin, ça dépend de quel niveau de connaissance. Alors là, pour le coup, si vous voulez, par rapport à la philosophie, même, parce qu'il y a des conséquences. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences philosophiques qu'il y a. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous voulez, il faut partir de la réalité des faits, quoi. Il faut partir de ce qui s'est vraiment produit. Alors, donc, ça dépend du niveau de connaissance qu'on a de la question. Moi, je dirais, dans un premier temps, ce qui est bien, c'est ce que, en fait, les textes qui sont finalement mis en ligne, qui ont été mis en ligne hier. Si vous lisez ces quatre textes-là, qui font chacun 10 pages, etc., qui sont 10 pages concentrées, hein, qui sont, en fait, c'est le premier livre de ce manuscrit, que j'ai encore réduit, si vous voulez, pour faciliter les choses, parce que je sais que plus personne... Enfin, vous savez comme moi, quoi, que la lecture, elle tombe, et que Internet, c'est une concurrence au livre, quoi, vous le savez, quoi. Donc, si vous voulez, je vais vous faciliter le travail. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, la réalité de la chose, c'est très important de connaître la réalité de la chose, parce que ça permet de prendre la dimension du problème. Par exemple, quand une fois je discutais avec Jean-Baptiste Fressoz, des gens qui sont hyper connus, ou Christophe Bonneuil, sur le coût du projet, si vous allez voir dans leur premier livre sur l'Anthropocène, par exemple, qui a été publié dans la collection de Christophe Bonneuil au Seuil, bon, il parle du coût du projet et il reprend les coûts officiels que Groves a maquillé, en fait. Hein, bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on maquille les comptes. Il les a complètement maquillés, parce qu'il fallait que ça rentre dans ce qui était acceptable par le Congrès, notamment par la commission Truman, parce qu'il était au départ de cette commission. Et donc, c'est des historiens des sciences, et Jean-Baptiste qui me dit, mais texto, hein, c'était pas publiquement dans un cours, mais c'était au café, juste à côté de l'EHESS, boulevard Raspail, je m'en souviens comme si c'était hier. Il me dit, mais de toute façon, le bombardement de mars 45 de Tokyo, ça fait 100 000 morts, quelle différence avec Hiroshima? Et en plus, dans le bouquin, ce que je vous disais, avec Christophe Bonneuil, ils reprennent les coûts officiels du projet Manhattan. Ils n'ont pas compris, ils sont passés complètement à côté de ce qu'est le projet Manhattan, totalement à côté. Ça montre, si vous voulez, ça montre qu'ils sont passés à côté. Quoi.
Mettre en concurrence l'effet de serre, la question climatique et le nucléaire.
Je vais te dire, Jean-Baptiste, tu sais où Jean-Baptiste, dans où il siège? Il siège dans le comité scientifique de Bernard de Hulot. Ouais. Et qui est dans ce comité scientifique? Je vais te dire un nom, Jean-Marc Jancovici.
Oui.
Une des plus crapules, pro-nucléaires, les plus crapules qui existent. Jean-Marc Jancovici. Il siège dans. Moi, je veux dire, bon, il y a des limites quand même, quoi. Hein. Non, voilà, je veux dire, il y a des limites.
Pour la question sur quand est-ce qu'apparaît la question du travail vivant et tout ça, je crois que ça correspond un peu plus à ce qu'est annoncé comme séance autour de réel, imaginaire et symbolique du capitalisme, peut-être.
Oui, mais ça n'est qu'une prolongation de. En fait, un point de départ de toute ma réflexion, c'était ça, c'était le nucléaire. Mais cette réflexion, elle touche à la psychanalyse, elle touche à la façon dont on écrit l'histoire, elle touche à la façon de caractériser le capitalisme, elle touche même j'ai des axes critiques par rapport à la critique de la valeur, par rapport à Anselme. Etc. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi une réflexion, enfin j'avais aussi une réflexion sur Auschwitz-Birkenau, qui est l'autre crime contre l'humanité, qui se fait aussi au même moment. Mais ça a des conséquences, mais bon, c'est énorme, les conséquences sont énormes. Et donc quand on aura franchi ce premier cap qui est cette histoire du Manhattan Project et du nucléaire, je pense qu'on aura franchi aussi autre chose. Vous savez, pourquoi Auschwitz fait retour sans arrêt? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu dans cette question-là. C'est pour ça que ça fait retour. Alors ça permet à ceux qui veulent l'instrumentaliser de l'instrumentaliser de tous les bords. Hein? Mais enfin, moi ça m'a poursuivi pendant 25 ans de ma vie. Je veux dire, aujourd'hui, j'avance quelque chose et je dis par exemple. Aujourd'hui, Auschwitz n'a toujours pas été compris. Le fond, plus exactement, le fond de ce qui fait le drame en tant que tel d'Auschwitz-Birkenau, moi, j'emploie pas les mots ni de Shoah ni de Holocauste. Ce sont des termes religieux, ça ne me convient pas. Donc, ce qui fait le cœur de ce drame, là, je maintiens, je le développerai, hein. Pas un truc comme ça en l'air, ça n'a toujours pas été compris. Et vous comprenez bien, et ça c'est les acquis de la psychanalyse, quand quelque chose n'a pas été résolu comme ça, ça court, qu'on le veuille ou non, dans l'inconscient, ou dans le refoulé, et ça revient. Ça revient sous d'autres formes, sur une forme ou sous un autre. Quelque chose qui n'est pas résolu, ça, c'est pas neutre, surtout quelque chose de ce poids-là. Et cette espèce de traversée que je vous propose, si vous voulez, elle est, mais alors, quelque chose de très important par rapport à aujourd'hui et qui j'espère, nous rendra plus à l'aise dans la critique. Parce que si on veut vraiment être dans la critique radicale de ce qui se produit aujourd'hui, Lacan dirait c'est un rôle impossible à tenir. Être aujourd'hui dans la critique du monde qu'on vit aujourd'hui, dans la critique radicale, c'est quelque chose d'impossible, comme dirait les psychanalystes. Pourquoi ? Parce que ça nous affronte à la question de la mort que transbahute ce capitalisme. Bon, j'en dirai beaucoup plus, mais beaucoup plus plus tard.
Même les thèses de Hannah Arendt sur la superfluité.
Bien sûr.
Tout ça, c'est
l'obsolescence chez Günther Anders, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout ça. Mais c'est ça qui convient. C'est ça qui convient aujourd'hui de problématiser. C'est ça qui convient. Toutes ces petites avancées là, enfin ces grandes avancées même, de Hannah Arendt, Günther Anders, de l'école de Francfort, certains trucs de la psychanalyse. Bon. C'est ça qui convient aujourd'hui d'essayer de s'approprier en quelque sorte dans la critique qu'on peut avoir de ce monde. Sans ça, la critique, elle va faire flop, quoi. Et on restera toujours des altercapitalistes, quoi.
Je pense à l'expérimentation sur l'être humain qui continue. Alors, ça, c'est le transhumanisme tel qu'on nous présente maintenant. Et c'est aussi toutes les expériences qui ont été faites nucléaires. Par exemple, à côté de Bikini, il y avait des îles habitées qui ont été irradiées massivement parce qu'il était prévu que les nuages se déplacent en direction de ces îles. Et on a fait de l'expérimentation sur des êtres humains en pleine période de guerre froide, mais en pleine période de paix. Ça, c'est donc, ça continue. Ça a continué et c'est en train de continuer d'une autre façon.
Mais ce qui est intéressant par rapport à la marchandise, c'est une question que soulevait Jean-Luc, c'est que on voit très bien la liaison. Au même moment, par exemple, qu'il y a la première explosion à Bikini, à la piscine Molitor, il y a quelqu'un dont je pourrais citer le nom si j'avais un peu de temps, qui lance quelque chose qui s'appelle le Bikini. Il s'appuie là-dessus.
À la piscine Molitor.
C'est-à-dire qu'il lance une marchandise qui est indexée, comme diraient certains, sur ce qui se fait de plus moderne et de plus scientifique. C'est-à-dire, la marchandise, il faut toujours qu'elle soit indexée sur quelque chose. C'est-à-dire, le signe de distinction de la marchandise, aujourd'hui, par exemple, le signe de distinction des téléphones portables, c'est la haute technicité, la connexion, etc. Pour que la marchandise soit vendue, quoi, circule, etc. À cette époque-là, il invente le Bikini à la piscine Molitor, exactement au moment où il y a la première explosion à Bikini. C'est lui, un Français, qui invente ça. Alors derrière, il y a autre chose qui se trame aussi. C'est ce que j'appelle, moi, l'érotisation de la mort. C'est-à-dire, dans cette société, qui fabrique de la mort, en veux-tu, en voilà, pour qu'elle reste désirable, il faut l'érotiser. Mais là,
c'est ce qu'on retrouve aussi au musée atomique de Las Vegas, où il y a pendant des années une miss atomique qui est
Las Vegas. La bombe sexuelle.
Mais c'est ça.
Je monte sur les toits à Las Vegas pour voir les montées. Et
il y a
une miss.
Je sais pas si c'était des renders qui avaient eu un texte comme ça qui s'appelait la bombe en bikini, justement, sur la relation, en fait, pas inconsciente, parce que là, elle est plutôt contente, mais justement, le côté sexualisant et sexualisé de la bombe atomique et de tout ce qui est, tout ce qui est atomique.
Moi, je préfère parler de l'érotisation de la mort indispensable au capitalisme.